Radio Campus 106,6 FM, comme chaque mercredi à 17h30, c'est l'heure du magazine Lille Info. Pour tout savoir sur Lille, eh bien pas de problème, vous écoutez Lille Info sur Radio Campus. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Christophe Camard, qui est directeur de l'école Polytech de Lille, ainsi que Priscilla Rive, qui est chargée de communication. Bonjour.
Bonjour.
Donc, cette école a 40 ans. C'est l'occasion de fêter cela, c'est l'occasion aussi de revenir un petit peu sur comment elle s'est constituée au fil du temps, puisqu'elle est composée au départ de plusieurs écoles, l'occasion de voir aussi ses grands projets, ce qui vous anime aussi en tant que directeur, M. Camard.
Tout à fait. Donc, peut-être en quelques mots vous resituer l'histoire de cette école. Donc en fait, l'école Polytech Lille est née en toute rigueur en 2002, en avril 2002, de la fusion de trois écoles, qui étaient l'EDIL, l'école universitaire des ingénieurs de Lille, l'IAL, l'Institut agroalimentaire de Lille, et l'IESP, qui était l'Institut d'exploitation des systèmes de production. Ces trois écoles, donc en 2002, se sont rapprochées pour créer ce qu'on appelait à l'époque, enfin qu'on appelle toujours, une EPU, donc une école polytechnique universitaire, école qui a vocation d'être unique dans une ville. Avec un certain nombre de critères en termes de flux d'ingénieurs. Il fallait, de mémoire, des flux de plus de 300 diplômés par an, avec des personnels en poste dans ces écoles. Et donc, les trois écoles réunies répondaient à ces critères. Alors, en fait, les 40 ans, pour être tout à fait précis, ce sont les 40 ans d'une des parents de Polytech Lille, qui est l'EDIL. Hein, qui est l'EDIL, en fait, est né en 1969. Donc, en fait, on a un petit peu de retard pour fêter ces 40 ans. La raison est simple, c'est que l'année dernière, on a été extrêmement bouleversé par la visite de la CTI, hein, cette commission des districts ingénieurs qui réhabite les écoles d'ingénieurs. Et donc, on a préféré différer cet événement. Donc l'EDIL est né en 1969, je n'y étais pas, j'étais encore au berceau à cette époque-là, c'était donc les premières formations dans les universités, hein, donc il y en avait quatre de mémoire à l'époque, il devait y avoir Clermont, Montpellier, Paris et Lille, quatre écoles qui ont été créées à Lille sous l'impulsion du recteur de l'époque qui s'appelait Guy Debert. Et donc l'EDIL a vécu jusqu'en 2002. Bien sûr, en 2002, l'EDIL s'est éteinte pour se transformer en Polytech. Mais bien évidemment, on est aussi sur un régime de la communication, du marketing, et on estime fêter quelque part les 40 ans de Polytech Lille.
Quand on dit l'EDIL, on peut peut-être préciser sa spécificité.
Alors, l'EDIL, donc, c'était l'école universitaire des ingénieurs de Lille. Hein. C'était une de ses quatre premières écoles internes à l'université. Et à l'époque, elle avait, je crois que c'était 5 spécialités, 4 ou 5 spécialités. Il y avait en gros l'IMA qui était l'informatique électronique automatique. Il y avait l'ITEC qui était la formation d'ingénieurs technico-commerciaux. Il y avait donc du génie civil. Et puis
matériaux composites.
Matériaux, c'est ça. Matériaux. Voilà, c'est ça. Donc c'était en fait le démarrage de cette école.
D'accord. Voilà. Donc maintenant, on peut dire que le Polytech Lille, oui, c'est aussi une école dans un réseau.
Alors
que cette
ça,
école,
oui,
elle est dans,
oui,
Lille, mais qu'il y a d'autres polytech que Lille.
Voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, en 2010, nous sommes effectivement, le réseau Polytech est constitué de 12 écoles qui sont à peu près réparties sur le territoire national. On ne couvre pas l'Est et on ne couvre pas, on va dire, le Sud-Ouest. Alors historiquement, même remarque, l'EDIL a été aussi très active par nos prédécesseurs sur cette image de marque qu'on trouve à travers les réseaux. Donc il y a eu un premier réseau qui s'appelait le réseau Eiffel et qui s'est également éteint en 2002 et qui s'est transformé en un réseau qui est devenu Polytech. Et à l'époque, il y avait donc la première Polytech, c'était Polytech Nantes, la première EPU. C'était la première EPU. La deuxième était Marseille, la troisième était Lille, la quatrième Orléans, cinquième Tours. Et donc ces cinq écoles ont rapidement constitué un réseau et qui s'est appelé le réseau Polytech. Aujourd'hui, toutes les écoles qui sont des EPU, dont des écoles polytechniques universitaires, sont membres du réseau Polytech. Mais ce n'est pas une condition sine qua non. Il y a donc une charte pour pouvoir intégrer le réseau Polytech.
Donc Polytech Lille est au cœur de l'Université de Lille, dans la cité scientifique. Est-ce que dans les autres Polytech, on retrouve ces écoles aussi dans des cœurs d'université?
Oui, tout à fait. Ce sont exactement les mêmes schémas, puisque, bon, bien sûr, après, les campus ont des structurations quelquefois différentes. Je pense par exemple à Nantes, où l'école est excentrée un peu de la ville, du campus universitaire, mais ça, ce sont des raisons historiques. Mais bien évidemment, d'un point de vue administratif, organisationnel, toutes ces écoles sont des écoles internes à leur université, donc, j'allais dire, vivent les mêmes successories, quoi, je dirais.
Et donc, par rapport à ces missions, est-ce que les formations sont identiques d'une école à l'autre ?
Alors, les formations des écoles d'ingénieurs sont même systématiquement adossées aux activités de recherche qu'on retrouve dans ces universités. Donc, on va dire, l'ensemble du champ disciplinaire scientifique est partiellement retrouvé dans chacune des écoles. En d'autres termes, Lille est une des plus grosses, et aujourd'hui encore la plus grosse des polytechs. Nous avons 8 spécialités de formation d'ingénieurs. D'autres polytechs vont en disposer de 3, 4, 5, 6, en fonction un peu de leur histoire et de leur activité de recherche sur leur campus. Puis bien sûr d'autres considérations, des considérations politiques, économiques. Donc on n'a pas systématiquement les mêmes départements de formation, les mêmes filières dans toutes les polytechs.
Alors, au niveau régional, vous occupez une place bien spécifique. Si on compare Polytech, par exemple, et l'école des mines de Douai, est-ce qu'il y a des synergies, des complémentarités? Comment ça se passe?
Alors, déjà, une originalité, c'est que la région Nord est extrêmement dense en écoles d'ingénieurs. On adhère tous à ce qu'on appelle la CRGE, donc la Conférence régionale des grandes écoles. Et donc, la région Nord compte plus d'une vingtaine d'écoles d'ingénieurs, ce qui en fait une région extrêmement dense sur laquelle, je pense, on ne communique pas assez, d'ailleurs. Après, bien évidemment, chaque école a des statuts différents, dépendent de ministères différents, en particulier, nous on dépend du ministère de l'enseignement, certaines écoles vont dépendre du ministère de l'industrie, donc on n'a pas forcément exactement les mêmes modes de fonctionnement. On a des écoles bien sûr publiques, des écoles privées, on a tout un panel, tout un champ d'écoles avec des statuts différents et quelque part, ça permet d'offrir un peu tous les cas de figure aux jeunes bacheliers pour leur formation d'ingénieur.
Alors, si on prend le cas, par exemple, d'autres pays, les États-Unis ou autres, ces écoles d'ingénieurs qu'on a en France, je veux dire, c'est une particularité française,
oui,
on va dire, c'est une exception culturelle dans le monde.
Oui, relativement, oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est probablement un risque, mais l'évolution quel sera le diplôme d'ingénieur dans une dizaine d'années à l'échelle de l'Europe, à l'échelle du monde? Bien évidemment, le diplôme d'ingénieur est franco-français. Hein, c'est une histoire qui est bicentenaire, hein, et donc qui est bien ancrée dans nos cultures, dans nos modes de fonctionnement. Mais bien évidemment, quand nos élèves s'exilent, je dirais, ils utilisent tout autant l'équivalence d'un master, hein, d'un grade de master, qui à l'étranger, bien évidemment, est davantage reconnu dans un schéma LMD en particulier. Mais bon, en même temps, de l'étranger, on sait aussi que les formations d'ingénieurs sont, d'une certaine manière, les bons élèves scientifiques qui ont eu cette chance de pouvoir intégrer une école obtiennent le titre d'ingénieur.
Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre une école d'ingénieur et un laboratoire de recherche ?
Ben, les missions ne sont pas les mêmes. Une école d'ingénieurs, par définition, sa mission principale, c'est évidemment de former des jeunes au métier d'ingénieur. Un laboratoire de recherche, il est là pour développer une recherche sur une activité bien spécifique. En même temps, les deux sont corrélés. Le laboratoire de recherche a besoin de bons élèves pour alimenter son laboratoire, enfin son, oui c'est ça, de bons élèves ingénieurs, et inversement, l'école d'ingénieurs a besoin de la richesse des compétences des laboratoires pour développer ses formations. Hein. Prenons un exemple aujourd'hui que je connais un peu, les nanotechnologies sont, on va dire, probablement encore au stade de la recherche, mais très vite, je pense que des écoles comme Polytech devront se positionner sur des formations dans ce domaine, puisque on arrive, on l'est déjà, mais à du stade d'industrialisation, d'application technologique, technique, et donc bien évidemment, il faut être prêt, quoi.
Alors, ces élèves, comment sont-ils recrutés? Quel niveau de départ? Comment ça se passe?
Alors, donc en gros, on recrute de néo-bacheliers, donc de jeunes bacheliers jusque, j'allais dire, au bac plus 4, hein, pour faire simple. Historiquement, le gros flux de recrutement est à un niveau Bac plus 2. Donc le DIL, comme d'autres écoles du réseau d'ailleurs, ou beaucoup d'écoles internes, ont toujours souhaité une forme de diversité en recrutement, avec en gros un tiers de recrutement de classes préparatoires, ce qu'on appelle les CPGE, un tiers de, anciennement ce qu'on appelait les DUG, hein, donc maintenant les L2, et un tiers de DUT. Alors bien évidemment, la mise en place du schéma LMD a un peu bouleversé cette donne, puisque les L2 ne sont pas dans une situation où ils sortent de leur cursus, et naturellement ils vont jusqu'au L3. Donc ce flux c'est un peu tari, je dirais, en termes de recrutement. Alors on a parallèlement mis en place ce qu'on appelle le PEIP. Donc le PEIP, c'est le parcours des écoles ingénieurs Polytech, où là on recrute des néo-bacheliers, et qui en fait vont rentrer dans un parcours licence qui est standard, avec certaines adaptations, hein, pour les amener rapidement aux notions de métier d'ingénieur. Et cette formation donc est assurée par l'université au sens large, hein, avec nos collègues des autres UFR. Et donc, une fois qu'ils ont été sélectionnés après le bac, par un concours et un entretien, ils ont une place de droit dans un des 60 départements du réseau Polytech. Donc c'est extrêmement séducteur auprès des jeunes. Et pour vous donner un chiffre, aujourd'hui, nous avons à Lille pratiquement 80... Alors on a une centaine de PIP, dont à peu près 80% ont obtenu une mention bien ou très bien au bac. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, on arrive à capter dans l'université de très bons bacheliers. Alors les raisons se comprennent assez vite, c'est que ils diffèrent une nouvelle fois leur choix sur la spécialité. Hein, donc ils font ces 2 ans, et après, s'ils veulent faire de l'informatique ou du génie civil, ils ont toujours cette opportunité. Ils ont devant eux une soixantaine de départements du réseau. Hein, donc quelque part, il y a une présélection qui a été faite, et ils sont pratiquement assurés de devenir ingénieurs s'ils répondent aux critères, bien sûr, de passage. Donc ça, ça plaît beaucoup. Si jamais il y a échec, ils sont sur un schéma licence, donc ils peuvent continuer vers le L3, ils sont intégrés dans les formations universitaires. Ils profitent bien évidemment de tout ce que peut offrir une université. Et bien sûr, on est aussi dans une université, publique. Donc les frais d'inscription sont extrêmement modestes. Hein, et donc on a aussi une vocation sociale dans cette opération.
Ce côté modeste des inscriptions, ça attire aussi des étudiants étrangers.
Oui, bien sûr. Oui. Alors au niveau des néo-bacheliers, je pense qu'en termes de flux, on ne doit pas avoir énormément de recrutement à l'étranger. Bon, même si on a des bases avancées, on va recruter, en particulier par exemple sur le Maghreb, on va sur place pour recruter. Effectivement, les étrangers rentrent davantage sur les bac plus 2, oui. Hein? Mais bien évidemment, le fait qu'on soit aussi une université publique, apporte un certain attrait. Hein. Mm-hmm. Pour être exhaustif sur les recrutements, il y a aussi ce qu'on appelle les bac plus 4, hein, c'est-à-dire que certains étudiants après un M1, avant la maîtrise, maintenant qu'on appelle le M1, souhaitent aussi obtenir ce diplôme d'ingénieur qui est convoité. Donc on intègre aussi, donc en deuxième année du cycle d'ingénieur, des bac plus 4, hein, pour être tout à fait exhaustif sur le recrutement. Ouais.
Est-ce que les étudiants étrangers que vous recrutez ou qui postulent ont des niveaux comparables aux étudiants français ?
Comparables, oui, même probablement pour certaines origines d'un niveau peut-être même supérieur, oui. Je pense en particulier à des étudiants chinois. En fait, l'école a organisé ce qu'on appelle les doubles diplômes avec des universités chinoises. Donc on l'a de la même manière, on va recruter sur place donc des étudiants chinois qui l'expérience montre, alors bon, c'est pas systématique bien évidemment, mais que globalement ces étudiants, on les retrouve souvent sur des têtes de promotion. Oui.
Mmh. Alors c'est vrai, ce qu'ils viennent chercher et peut-être ce que vous leur apportez qu'ils ne trouveraient pas forcément ailleurs, c'est des capacités à gérer des problèmes d'avenir ou même des problèmes actuels mais qui sont de l'ordre du développement durable.
Peut-être, oui. Enfin, bon, globalement, ce qui peut-être distingue d'une formation, je dirais, universitaire standard d'une formation d'ingénieur, c'est un peu cet ensemble de formations qu'on assure, au-delà des aspects scientifiques. Hein, ce sont toutes ces sciences humaines. Les langues étrangères qui complètent cette formation et donc qui normalement apportent une espèce d'ouverture d'esprit plus large pour les jeunes ingénieurs. Quoi. Bon, il ne faut pas oublier non plus que ça, c'est une contrainte qui nous est demandée par la CTI en particulier. Hein. C'est-à-dire que pour qu'on soit une école d'ingénieurs habilitée par la CTI, on doit satisfaire un certain nombre de critères, comme par exemple avoir 20% d'enseignement qui est assuré par des extérieurs, hein, des extérieurs, enfin des professionnels du monde socio-économique, pour faire simple. On doit aussi avoir une quinzaine de pourcents, bon, ce sont des chiffres approximatifs, justement de ces enseignements autres que des enseignements scientifiques. Un élève, pour aujourd'hui obtenir les diplômes d'ingénieur, il doit avoir obtenu un niveau d'anglais reconnu qui s'appelle le B2. En gros, ça correspond à un TOEIC de 750 sur 1000 points. Rapidement, la prochaine contrainte sera une exposition obligatoire à l'étranger, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus obtenir le diplôme d'ingénieur en France sans être passé par un stage à l'étranger, ça c'est à échéance de 3-4 ans. Vous voyez, donc il y a un certain nombre de critères d'obligations, contraintes, je ne sais pas s'il faut appeler contraintes, c'est négatif, mais c'est cet ensemble de nécessités qui font que on est dans un système assez normé, quoi.
Mmh. Donc là, depuis 1970, vous avez formé plus de 8000 ingénieurs. C'est l'occasion de fêter ça, là, prochainement. Qu'est-ce qui va se passer ?
Donc, la semaine prochaine sera donc effectivement une semaine, un peu festive, rythmée donc sur les 5 jours. Hein, le premier jour, le lundi, sera consacré donc à une cérémonie un peu officielle, hein, en présence d'un certain nombre de décideurs politiques, économiques, régionaux, nationaux. Et on va profiter pour inaugurer donc un espace qu'on appelait espace partenaire, parce qu'une école d'ingénieurs, comme je viens de le dire, est naturellement ouverte sur le monde, et cet espace le matérialisera un peu plus, c'est-à-dire que ça va être un espace de près de 300 mètres carrés dans lequel on retrouvera, enfin les élèves ingénieurs retrouveront un certain nombre d'informations, de contacts sur les relations internationales, les relations industrielles, la recherche, la valorisation, l'entrepreneuriat, enfin tous ces champs dont a besoin un élève ingénieur. Et puis également, nous avons mis en place une espèce de salle pour assurer de la visioconférence, dont j'espère d'ailleurs les collègues de l'université pourront aussi profiter, mais qui sera mise à la disposition de nos partenaires industriels, hein, des PME qui en particulier sont proches de l'école, recrutent des élèves. Donc ça sera le lundi matin. Le lundi après-midi, il va y avoir une conférence extrêmement intéressante, relativement ouverte d'ailleurs, donc là on peut inviter des collègues de l'ILIN à venir nous retrouver. Donc ça va être une conférence animée par Thierry Godin sur en fait l'ingénieur, les métiers d'ingénieur de demain, quoi, pour faire simple, hein. Alors bon, pour faire un peu un jeu de mots, c'est ingénieur dans 40 ans, puisqu'en fait nous 40 ans. Donc c'est un prospectiviste qui va un peu nous... Alors peut-être même, nous chatouiller un peu, nous secouer sur les idées, un peu nos paradigmes, hein, ce qu'on peut avoir sur la formation d'ingénieur, qu'est-ce qu'un ingénieur aujourd'hui, et voir donc comment, sur quelle trajectoire on peut évoluer. À l'issue de cette cérémonie, enfin de cette conférence, il y aura une table ronde avec M. Maury, qui est le directeur du CEFI, et Luc Doublet, qui est notre président du conseil d'administration et président de WSA, hein, les drapeaux régionaux et internationaux. Et après, donc, on aura un moment festif, comment dire, une espèce de moment de... comment dire, de je cherche le terme des... ça va être des concerts, des choses comme ça, avec nos élèves.
Un petit spectacle musical.
Et à l'issue de ce spectacle musical, nous allons nous diriger vers la mairie de Villeneuve-d'Ascq, où le maire de Villeneuve-d'Ascq a eu la gentillesse de nous accueillir pour remettre, alors ça paraît presque paradoxal, le diplôme d'ingénieur aux premières promotions de l'EDIL, puisqu'en fait, étonnamment, les promotions de 70 à 74 n'ont jamais reçu ce superbe parchemin, ce superbe diplôme. Donc on va faire cette cérémonie à Villeneuve-d'Ascq le lundi soir.
D'accord.
Alors très rapidement, le mardi, on pourra éventuellement revenir. Ça sera ce qu'on appelle une journée open stage, hein, c'est-à-dire que là, on accueille une quarantaine d'entreprises qui viennent en fait présenter l'entreprise pour établir des collaborations, en particulier de la recherche de stagiaires, et inversement, les stagiaires peuvent rencontrer des entreprises pour trouver leur stage. Le mercredi, c'est la journée recherche. Le jeudi, c'est la journée, on va dire, culture internationale, hein, un moment assez fort d'ailleurs, où en fait on invite nos différentes nationalités étrangères à venir présenter sur des petits stands. Alors ça prend un peu la forme d'un marché de Noël, à présenter en fait leur spécialité culinaire, des choses extrêmement intéressantes. On peut découvrir comme ça au détour des allées, donc c'est très très sympathique. Et le vendredi, avec bien sûr aussi des conférences, hein, là on reçoit donc Flavia Fisco, donc, qui est chef de projet et donc qui vient de l'Université Polytechnique de Bucarest. Et puis le vendredi, ça sera une journée plutôt consacrée au développement durable. Donc vous voyez, la semaine est... Et bien sûr, le jeudi soir, il y aura le moment festif, on va dire, réservé au personnel de l'école et au personnel actuel, bien sûr, et puis à tous aux anciens personnels de l'école qui, bien évidemment, ont largement contribué à la réussite de cette école.
Vous avez également une journée de recherche le mercredi 17 sur oui. Le thème de la recherche américaine doit-elle être un modèle pour la recherche française. Alors, avec les États-Unis, on est en concurrence ou on travaille ensemble, ou est-ce qu'il y a un modèle d'ailleurs, est-ce qu'il y a un modèle français revendiqué, un modèle américain, et finalement comment ça va se passer? En plus, il y a quand même d'autres pays qui cherchent à faire émerger leurs compétences technologiques, universitaires, etc. C'est une rivalité ou une complémentarité, et finalement ça sert à qui? Ça sert la planète ou ça sert les hommes?
C'est une question difficile. C'est une question très difficile. Je pense que c'est les deux à la fois. À mon sens, toute forme de recherche est nécessairement collaborative, hein, à l'échelle nationale, à l'échelle internationale. Donc on le voit bien à travers le montage de projets, des projets européens, des projets internationaux. Je veux dire, on ne peut pas vivre en vase clos, déconnecté de nos voisins. Inversement, il y a aussi bien sûr la recherche induit des enjeux économiques, hein, par la valorisation. Et là on arrive sur un champ qui est plus concurrentiel, hein. Donc j'ai envie de dire, je pense que c'est un peu les deux à la fois, quoi. Ce qui me semble être notablement différent entre notre système et le système américain, enfin il me semble, c'est essentiellement la réactivité et ce pouvoir de soutenir fortement des projets de recherche. Alors bon, on peut prendre deux cas extrêmes, c'est la conquête de l'espace, par exemple, hein, qui a été un projet pharaonique, mais on voit bien que quand on veut y mettre les moyens, je pense que nos voisins américains ont cette latitude de dégager très rapidement des moyens, alors que nous, il me semble qu'on est quand même dans un système, j'allais dire, plus inertiel dans ce genre d'organisation, il me semble.
Donc là, on a parlé un peu des 40 ans, on a fait un petit bilan. C'est quoi l'avenir de Polytech dans les 40 prochaines années?
40 prochaines années, c'est ambitieux.
40 années, c'est aussi, on peut dire que c'est maintenant le temps qu'aura un ingénieur à travailler
Tout à
aussi,
fait, au
hein,
minimum, hein,
donc
au
au
minimum.
minimum. Hein.
Alors pour ma part, je serai après ma retraite. Hein,
On vous le souhaite. On
Non,
donne chance.
non, mais bon. J'allais dire, l'efforce d'une école comme Polytech, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est clairement c'est d'être adossé à des activités de recherche toujours amont. Donc on aura probablement la latitude de mettre en place de nouvelles filières, comme par exemple la nanotechnologie, la biotechnologie, enfin tous ces champs disciplinaires qui sont en stade de recherche, on aura cette latitude. L'école polytechnique, le Polytech Lille a aussi la chance de couvrir à peu près tous les champs disciplinaires de scientifiques. On a donc aussi la latitude d'aller à la croisée de plusieurs disciplines. Prenons la mécanique et l'électronique. Si demain on veut se positionner sur la mécatronique, rien ne nous en empêche. Donc on a cette latitude. Parallèlement, on a aussi la latitude de mettre en place des formations, des voies d'accès au diplôme d'ingénieur de nous qui se développent actuellement comme l'apprentissage. Hein, l'apprentissage est une voie d'accès qui a aussi d'ailleurs une dimension sociale sur laquelle on est extrêmement sensible. La voie de l'apprentissage se développe. Là, c'est aussi un levier.
Y a quand même eu un constat assez récent que dans certains domaines, c'est pas encore vraiment
C'est vrai.
bien perçu.
C'est vrai. C'est vrai, bien sûr, dans le monde des ingénieurs, il y a 40 ans, je pense on n'aurait pas pu imaginer de devenir ingénieur par la voie d'apprentissage. Hein. Aujourd'hui, les mentalités changent. L'apprentissage est naturellement corrélé au tissu économique. Hein. Il faut des entreprises qui s'engagent à prendre des apprentis, hein, parce que c'est quand même chronophage, il ne faut pas l'oublier. Donc là, pour donner un exemple, on vient récemment d'ouvrir une formation par apprentissage en génie civil qui marche très très bien. Hein. On a une quinzaine de places disponibles, on a 150 candidats. Vous voyez, donc vraiment, ça fonctionne. Prochainement, on va en ouvrir une sur l'informatique statistique, hein, notre département informatique statistique. Elle est dans les tuyaux, j'espère qu'elle ouvrira en 2012. Donc ça, c'est aussi comment dire, une évolution de l'école, à mon avis, rapide. Je pense aussi à l'effet réseau. Le réseau va encore s'agrandir rapidement. Lyon va rejoindre le réseau. Donc on va, encore une fois, peut-être changer d'orbite, hein, donc changer de dimension. Oui. Bon, voilà, après, bon, il n'y a pas j'allais dire, de grande révolution qui se profile. Il y a aussi, on va devoir s'intégrer dans les réformes qui sont en cours. Je pense je pense à l'université de Lille éventuellement, je pense à l'université régionale. Le redécoupage des écoles d'ingénieurs peut être imaginé. Hein, donc là, on ne sait pas. Aujourd'hui, le gouvernement pousse au rapprochement des grandes écoles et des universités. Quelle sera l'incidence pour nous? A priori, nous, j'allais dire, on répond déjà à un certain nombre de ces critères. Hein, mais bon, ça peut bouleverser un certain nombre de, ça peut bouleverser le paysage sans vraiment aujourd'hui être très clairement positionné, quoi.
Voilà, bien, au nom de Radio Campus, je vous souhaite un très bon anniversaire, M. Camara.
Merci beaucoup, au plaisir.
Bonne soirée.